On va faire un tour au Venezuela entre une petite ville des plaines et une petite ville portuaire située sur l'Orénoque qui fait la frontière avec la Colombie qui s'appelle Puerto Ayacucho. Deux petites villes tranquilles par rapport à d'autres villes plus à l'est et principalement dans le nord-est du pays où se déroulent actuellement des heurts particulièrement violents entre des manifestants de l'opposition et les forces de l'ordre. L'État reconnaît déjà 37 morts et 559 blessés fin mars 2014. Alors, ce qu'on retrouve par contre dans ces petites villes tranquilles plus au sud, ce sont des files d'attente interminables devant les magasins qui vendent les produits de première nécessité. Le pays traverse une crise économique. Il y a des pénuries occasionnelles ou chroniques sur certains produits. Et voilà, comme dans la plupart des pays qui ont adopté un système par élection, un système politique par élection, la droite accuse la gauche d'être responsable de tous les maux et la gauche accuse la droite d'être responsable de tous les maux. Voilà, rien de bien nouveau sous le soleil. En revanche, ce qui est particulièrement intéressant au Venezuela, c'est que le gouvernement, le régime bolivarien, a réussi à s'autonomiser finalement de la tutelle des marchés financiers. Et il a d'ailleurs, grâce à sa puissance pétrolière, pu implémenter des lois qui, à l'origine, moi, me semblaient des mesures théoriquement convaincantes pour se débarrasser de la tutelle des marchés financiers en Europe. Or, bien sûr, c'est que dans la pratique, ça marche pas du tout comme dans la théorie et qu'il y a tout un tas d'effets particulièrement nocifs qui sont apparus, notamment une inflation galopante et l'apparition de la contrebande. Pour préciser ce que j'entends par l'autonomisation du gouvernement vénézuélien par rapport au marché financier, je voudrais mettre en parallèle le cas européen. En Europe, on a des États qui sont dans un déficit budgétaire chronique et qui sont dépendants, en vertu de l'article 123 du traité de Lisbonne, des financements des acteurs bancaires privés. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en parallèle, ces États, vu que ce sont de potentiels emprunteurs, sont également soumis aux évaluations des agences de notation. Vous avez déjà tous entendu parler de Standard & Poor's, de Moody's et de ces fameuses notes AAA qui risquent d'être dévaluées. Alors, ces notes, elles sont évaluées en fonction de critères de rentabilité, voilà, de critères originaires du monde de l'entreprise et de la finance. Alors, ce qui se passe, c'est que si un État applique des politiques qui divergent des recettes des milieux financiers, il va être considéré comme un mauvais élève. Et lorsqu'il va demander de l'argent à une banque, celle-ci va se méfier parce qu'elle verra plus de risques de ne pas revoir son argent. Donc pour quand même inciter cette banque à prêter de l'argent, il va falloir lui donner plus d'argent en retour. Voilà, un retour sur investissement plus important. Et ça se traduit par une augmentation des taux d'intérêt. En France, par exemple, on a adopté ce système monétaire depuis 1973 et les taux d'intérêt, même s'ils étaient relativement intéressants, se sont accumulés pour maintenant former une dette qui atteint 1900 milliards d'euros. Voilà, une dette qui va être très difficilement remboursable. Ce qui fait que les hommes politiques sont particulièrement attentifs à ce problème de la dette et appliquent les recettes politiques des milieux financiers, c'est que si jamais les taux d'intérêt grimpent, la dette risque d'exploser. Voilà, donc ils sont dans un cercle vicieux. L'intérêt là pour les milieux financiers, c'est de garder cette dette et de pouvoir contrôler les États de cette manière. C'est de cette manière que les États ont été contrôlés en Amérique latine à partir des années 80. D'ailleurs, cette dette a servi aux grandes institutions financières internationales type FMI, Banque mondiale, à modeler les politiques publiques en fonction des intérêts des élites des pays du Nord. Donc c'est ce qui a permis la privatisation des services publics ou l'extraction des matières premières à des prix dérisoires, et ce au profit d'entreprises de pays occidentaux. Donc le Venezuela, grâce à son pétrole, a pu sortir de ce cercle vicieux. Et le gouvernement, d'ailleurs, ne s'est pas contenté de ça. Il applique des politiques monétaires et économiques qui vont totalement à l'encontre des intérêts des élites financières internationales et même de leurs acteurs économiques nationaux. Donc voilà, ils appliquent des politiques qui sont complètement aux antipodes de l'orthodoxie libérale. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans lien avec les troubles politiques et économiques que traverse le pays actuellement. Donc on va décortiquer les rapports entre la politique monétaire, enfin les politiques monétaires souverainistes menées par l'État bolivarien, quelles sont les difficultés auxquelles il s'est heurté, celles auxquelles il se heurte encore, notamment l'inflation, ces difficultés sur lesquelles joue l'opposition pour déstabiliser le régime, et le lien entre tout ça et l'apparition de la contrebande. Alors plus précisément, dans la partie qui suit, on va s'intéresser plus spécialement cette situation paradoxale d'un gouvernement élu qui applique des lois contraires aux intérêts des acteurs économiques dominants, que ce soit des acteurs économiques internationaux ou nationaux. Comment ça se fait qu'il est encore au pouvoir? Quels sont les atouts dont il a pu jouer? L'idéologie du parti et la stratégie menée par la révolution bolivarienne. Dans la seconde partie, on va se focaliser sur les difficultés que rencontre un régime qui souhaite sortir des règles du jeu libéral, les politiques qu'il a développées pour y remédier, et là-dedans on identifiera deux mesures monétaires, voilà, qui ont servi finalement de support au développement de la contrebande de devises étrangères et plus largement de la contrebande. Donc ces deux parties, elles vont servir à vous placer le cadre dans lequel on observe cet essor de la contrebande. Donc je vais devoir pas mal intervenir pour vous faire la synthèse, parce que sinon ça risque d'être particulièrement long. Mais voilà, autant que possible, ce sont des Vénézuéliens qui vont vous expliquer tout ça avec des exemples concrets et clairs, puisqu'ils vivent ces situations déjà depuis pas mal d'années. Et dans la dernière et troisième partie, on se concentrera plus particulièrement sur la contrebande. Voilà comment finalement se faire pas mal d'argent au Venezuela en contournant les mesures monétaires souverainistes qui ont été mises en place par le régime bolivarien.
Il y a eu beaucoup de changements à partir de 1998 dans notre gouvernement, parce que c'est cette même année que Hugo Rafael Chavez Frías a remporté les élections présidentielles avec la majorité des votes. Mais il a toujours gardé une certaine rancœur, une certaine méfiance envers l'étranger. Et surtout envers les Américains. Parce que les Américains ici au Venezuela, c'était les étrangers qui étaient majoritairement propriétaires des entreprises. Ils rapatriaient tout l'argent gagné ici au Venezuela aux États-Unis, ce qui était une perte de bénéfices pour l'industrie vénézuélienne. Et tout ça au profit d'étrangers. Donc quand il est arrivé au pouvoir, il a nationalisé beaucoup d'entreprises. Il l'a nationalisé, c'est-à-dire qu'il a exproprié les Américains et il les a expulsés.
Hugo Chavez devant l'Assemblée nationale.
Une loi qui réserve à l'État les biens et services relevant du secteur primaire des hydrocarbures. Très bien. La chaîne nationale. Pour l'annoncer sur la chaîne nationale, que l'information soit massive. Je vais la promulguer immédiatement. Et cela sortira aujourd'hui même dans le bulletin officiel, dans un numéro extraordinaire. Aujourd'hui même, parce que dès demain, on commence à récupérer les biens et actifs qui, dès maintenant, prennent le statut de propriété sociale, comme cela aurait toujours dû être le cas.
Parmi ces nationalisations, vous avez celle de PDVSA, Petróleo de Venezuela Sociedad Anónima, dont l'État devient l'actionnaire majoritaire après l'élection de Chavez. Les impôts sur les ventes de pétrole passent d'à peine 30% à 70% dans les années qui suivent son élection. Donc, les caisses de l'État se remplissent de pétrodollars, ce qui lui permet de financer une politique d'obédience marxiste. À côté de ça, pour se prémunir des possibilités de déstabilisation en cas de rétorsion économique des États-Unis, le Venezuela diversifie ses débouchés pour le pétrole et assure ainsi une certaine stabilité à ses recettes. Aperçu de l'idéologie du parti et de l'idéal économique qui permet de rassembler des partisans, on va s'entretenir avec un fonctionnaire d'un des principaux organes de diffusion de la doctrine d'État.
Je m'appelle Peter Castañeda, je suis fonctionnaire de l'INSS, plus précisément en région amazonienne. Au Venezuela, ici, nous avons un modèle économique qui a été mis en œuvre par notre président, par notre commandant Hugo Rafael Chavez Frías. Il nous a légué une économie orientée vers le développement durable endogène. Le développement endogène, ça signifie que nous puissions, depuis la même base, depuis le même peuple, qu'on puisse produire tout ce qui nous est nécessaire. Et après, si nous avons une production abondante, l'idée c'est que nous puissions vendre tous ces produits à l'étranger. Quand l'économie argentine s'est effondrée, le Venezuela a soutenu l'Argentine essentiellement avec du pétrole, avec des combustibles, pour qu'ils puissent sortir un petit peu de leurs problèmes. Et le président Kirchner fut celui qui releva, avec l'aide de Chavez, l'économie qui était en déroute en Argentine. Il le fit également dans le cadre des accords Petrocaribe, où il a aussi accordé cette aide. C'est une forme de relation que Chavez a initiée. Il échangeait par exemple du pétrole contre des médicaments, contre des outils ou bien encore contre certains équipements médicaux.
Avec une marge budgétaire importante, le régime bolivarien va pouvoir mettre en place des programmes sociaux et réduire fortement les inégalités. Il va construire des logements, étendre l'accès aux soins médicaux aux catégories les plus défavorisées, construire des centres de santé par exemple dans les campagnes, ouvrir les universités à tous les Vénézuéliens, à tel point que la CEPAL, donc la Commission économique pour l'Amérique latine, reconnaît le Venezuela comme étant le pays d'Amérique latine qui a le plus réduit les inégalités et le plus réduit la pauvreté ces 10 dernières années.
Pendant le mandat du commandant suprême Rafael Hugo Chávez, dans cette décennie gagnante, la richesse provenant de la rente pétrolière a été redistribuée, ce qui a entraîné une réduction historique des inégalités. De même, la pauvreté a été réduite de 50% à 27,8%.
C'est peu ou prou les chiffres qu'on peut trouver par d'autres sources. Alors, ces taux de pauvreté, ce sont toujours des chiffres à prendre avec des pincettes, mais ça donne une idée de l'importance de la clientèle électorale que peut se fidéliser le régime s'il respecte ses engagements à reverser une partie de la manne pétrolière aux catégories défavorisées. Donc, au Venezuela, on a une situation particulière où on a un régime élu qui dessert les intérêts des élites économiques internationales et nationales. Donc voilà, une chose quand même très étonnante si on compare avec les autres régimes politique par élection, si on prend le cas européen ou des États-Unis, principalement pour les présidentielles, où on se rend compte que durant ces campagnes électorales, les candidats sont sélectionnés par les élites et par les catégories en mesure de leur financer leur campagne électorale. Une campagne électorale qui coûte très cher, hein, du fait de, voilà, de cette importance de l'exposition médiatique pour réussir à arriver à la fin de la campagne. Donc, finalement, au Venezuela, on a eu un couac où M. Chavez est passé au pouvoir et a sécurisé l'accès aux revenus du pétrole pour les membres de son parti et pour les membres du gouvernement. Ça fait que quand vous arrivez maintenant au Venezuela, vous avez l'impression d'arriver au milieu d'une campagne électorale permanente. Pour un mort, vous avez des portraits de M. Chavez dans la plupart des espaces publics ou des portraits de son successeur Nicolas Maduro. Donc il y a une véritable légitimité démocratique dans ce pays, notamment grâce à cet argent du pétrole qui est reversé, qui est réinvesti dans la propagande électorale et dans la propagande politique. Ce qui fait qu'encore actuellement au Venezuela, en mai 2014, vous avez encore 148 sièges à l'Assemblée nationale sur 167 qui sont occupés par la coalition pro-gouvernementale.
Thank you.
Les chavistes contrôlent maintenant largement l'exécutif, le législatif, et on observe une volonté de monopolisation des secteurs économiques stratégiques par les acteurs politiques au pouvoir. C'est-à-dire qu'on a la naissance d'un capitalisme d'État, ce même travers qu'il y avait dans l'URSS. Alors, les leviers économiques stratégiques passent progressivement maintenant des mains des acteurs économiques privés à celles des acteurs politiques qui sont au pouvoir. On a l'apparition d'une bourgeoisie d'État. Et les troubles qu'on observe, c'est largement une instrumentalisation des difficultés économiques que traverse le pays par les acteurs économiques privés pour déstabiliser une bourgeoisie d'État, voilà, qui est en train de rogner progressivement leurs avantages.
C'est le nom qu'il leur donna. Il a désigné ces gens comme des capitalistes. C'était des gens qui partaient, revenaient, investissaient, produisaient plus et réinvestissaient leurs gains. L'argent abondait davantage pour eux. Mais lui, il n'était pas d'accord avec ça. Son régime est très socialiste. C'est une société où tout le monde doit être égal. Ce qui n'est pas appliqué par le gouvernement. Parce que, comme je te disais, il y a l'ancien gouvernement et le nouveau gouvernement. Mais c'est la même fonction. Parce que l'ancien gouvernement volait, il y avait de la corruption, il y avait des assassinats, c'était la même chose. Et le nouveau gouvernement est arrivé. Il y a toujours des vols, de la
corruption,
des meurtres, et c'est la même chose. Donc il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. À part qu'avec ce nouveau gouvernement, il y a eu plus d'inclusion sociale. Il y a davantage d'inclusion sociale avec la partie la plus basse, la plus marginale, la plus pauvre du pays.
En la parte
on a aussi davantage ouvert le secteur de l'éducation. Ça, c'est vraiment, vraiment beaucoup ouvert. La majorité des universités se sont ouvertes à toute la population vénézuélienne. Et ça, gratuitement, sans rien te coûter. Tu payes seulement ton transport. Tu n'as pas à payer l'instruction. Tu ne payes rien. C'est complètement libre. Et ça, de même pour les écoles. Pour tout ça, le gouvernement s'est vraiment investi. Il s'est complètement investi dans l'éducation pour que les gens puissent se préparer, pour qu'ils puissent étudier, qu'ils progressent.
Et
l'autre partie, parce que le pays est divisé en deux parties, 50-50, la partie supposée mauvaise, qui est la partie capitaliste, eux, ce sont les gens qui investissent, qui produisent.
La nationalisation du pétrole a offert l'indépendance financière à l'État vénézuélien. Donc voilà, finalement, il s'est dégagé de cette tutelle des classes financières internationales ou nationales. Il a gagné en souveraineté, il a gagné du pouvoir. Et évidemment, le pouvoir s'est fait pour en abuser. Donc finalement, qu'est-ce que ça a changé dans le pays ? Vous savez qu'avant, les politiques assuraient la ponction d'une partie de la production nationale pour les besoins en produits de luxe, en parc immobilier, en vacances sur des yachts, de leurs tuteurs financiers, et par là même, ils assuraient les leurs également. Et maintenant, voilà, et bien, ils ponctionnent uniquement pour leurs besoins personnels, enfin comme voilà, pour leurs propres besoins. Alors, ce qui semble permettre ça, c'est que l'État, finalement, assure la redistribution des richesses et a également un rôle protecteur. Voilà, il a réussi avec la figure de Chavez, du commandante, voilà, protecteur et paternel, il a réussi à faire passer l'État comme cette espèce de rempart devant les excès d'une bourgeoisie, voilà, qui est diabolisée. Enfin, dans la doctrine d'État, c'est comme ça que c'est présenté. Et cette situation, ça fait que c'est extrêmement difficile de rencontrer quelqu'un au Venezuela qui puisse vous expliquer les responsabilités de son propre parti dans les problèmes économiques que traverse le pays en ce moment. Alors ça, que ce soit l'opposition ou que ce soit les chavistes, c'est-à-dire que soit vous faites partie des gentils, soit vous faites partie des méchants. Un peu comme ça qu'on peut résumer la situation actuellement au Venezuela.
Actuellement ici au Venezuela, ils organisent ces émeutes, provoquent l'angoisse, ils tuent des gens,
pagando a los delincuentes
para que tuent des gens à l'improviste. Et ils disent ensuite qu'ici on viole les droits de l'homme, qu'ici il n'y a pas de liberté d'expression, ici ils nous asphyxient en bloquant la circulation des biens de consommation et des produits alimentaires. Pourquoi? Parce que la plupart des propriétaires des entreprises alimentaires qu'il y a ici au Venezuela sont capitalistes, ils sont surtout américains, ils ont des entreprises ici. Ils se sont assis avec le président Chavez, Maduro. Ils se sont rencontrés pour voir s'il était possible de freiner les problèmes alimentaires que nous pouvons rencontrer ici au Venezuela. Mais c'est parce qu'ils veulent de cette manière arriver à un coup d'État contre la révolution.
Avec des discours et des actions d'une opposition qui ont finalement assez peu d'impact sur l'opinion de la clientèle électorale chaviste, le gouvernement a des appuis plutôt solides, voilà, et une légitimité démocratique. Donc alors, ce qu'il reste à l'opposition pour déstabiliser le régime, c'est de jouer sur le mécontentement de la population lié aux difficultés économiques, notamment l'inflation, sur laquelle on va se focaliser dans le document qui suit.
Thank you. Pero a todos los muchachos que los vive arrasando.